Yo Matt, ça y est, c'est bon. Max a réussi à caler à Emile Folouro, le responsable des partenariats chez TikTok. On va pouvoir en savoir un peu plus sur ce réseau social et en particulier sur leur stratégie sport et football. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. Attends. Ouais, mardi prochain, 15h au studio. Ok mon beau ? Allez, je t'embrasse.
Salut Monsieur Cissé, j'espère que ça va. Écoute, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Je me suis complètement planté dans les dates. Et le jour de l'enregistrement avec Émile de TikTok, en fait, je suis à Londres pour notre événement annuel chez Opta. Donc, impossible pour moi. Et je pense que le plan B, c'est de faire intervenir la conscience, voilà, qui sorte du bois. Et qu'il se révèle au monde. Écoute, si ça te va, on fait comme ça. Et j'ai hâte d'entendre ce que ça donne. Allez, je t'embrasse. Salut.
Ok, Matt, bien noté. Bon événement. Du coup, on va tester la conscience à la présentation. Ça tombe plutôt bien parce que c'est lui qui avait invité Émile Folouro, responsable des partenariats chez TikTok. Max voulait en savoir un peu plus sur leur stratégie sport et en particulier foot. Donc, on en saura un peu plus. Et puis, quant à moi, aller au-delà de ce que j'entends sur ce réseau social. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode quelque peu inédit parce que je serai sans mon acolyte Mathieu Lille-Palette qui est à Londres pour un événement Opta. Mais par contre, je serai accompagné de la conscience d'Alternative Football, a.k.a. Maxime Marchand. Ça va Maxime ?
Ça va et toi ?
Super, j'ai la pêche et puis je suis super excité parce qu'aujourd'hui, on va avoir enfin la vraie réponse. Comment tenir 50 minutes de podcast en une minute et le rendre toujours tout aussi sexy et intéressant ? On accueille Émile Folouro. Salut Émile.
Salut.
Ça va ?
Au top. Parfait, très
supporter des Girondins en plus.
Alors en anglais on dit content partnership manager et en français ça donne quoi?
Ça donne juste en gros mon travail c'est de faire en sorte que tout l'écosystème sportif soit sur la plateforme, poste du contenu et le rendre très engageant pour notre communauté. C'est une manière beaucoup plus longue mais française de le dire.
Ok, chez TikTok donc.
Chez TikTok,
je l'ai pas dit.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
La une minute, c'est toujours le même format. C'est toujours la même durée, une minute ou un peu plus?
On peut maintenant faire des TikTok jusqu'à 3 et 10 minutes.
Ouais, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que tu vas tout nous expliquer aujourd'hui. Hein.
Moi, je suis
un novice. J'ai pas de réseau social ou réseaux sociaux. Et par contre, je suis curieux, parce que TikTok, ça cartonne.
Bah déjà, nous, on est une plateforme de divertissement, pas forcément un réseau social. En gros, on apporte des contenus vidéo de durée variée maintenant à peu près tous les publics sur plein de sujets différents. Là, on va parler de sport, mais on fait aussi de l'éducation. On parle de livres, on parle de cinéma, de séries.
Et d'ailleurs, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet...
Ta première question.
Il y a une question pour savoir si tu fais partie du crew. Football, c'est quoi ton histoire avec le football ?
J'ai une histoire quand même assez classique avec le football. C'est l'histoire d'un enfant à qui on a offert Football Manager en 2005 ou 2006. C'est son premier ordinateur.
Tant t'as dit quoi ? 2005-2006 ?
T'as quel âge toi ?
Tu très jeune.
Tu jouais encore à cette époque ?
Ouais. Mais j'étais putain...
Je suis pas sûr que c'était sur ma liste des transferts à l'époque. mais on m'a offert Football Manager à cet âge-là. Moi, l'histoire, c'est mon père, on regardait la Ligue des Champions et il me disait qu'à la mi-temps, je devais aller me coucher. Mais si le match était bien, j'avais le droit de regarder jusqu'à la 60e. Donc mon rapport au foot, il naît comme ça. Je suis en club... En région parisienne à partir des Poussins et jusqu'au 17 à la Salésienne.
À la Salésienne, donc c'est le 17e ça ?
Porte d'Anières, ouais. Voilà, je commence là et après je continue à jouer au foot à peu près partout.
Et quel poste ?
Milieu de terrain, mais très lent.
Chaque fois qu'on parle de terrain, ouais, j'étais offensif, après très vite inoffensif.
Ouais.
J'étais lent.
Donc voilà, et à côté, le foot, ça a toujours été une passion, le jeu en lui-même, mais aussi tout ce qui l'accompagne. Et en marge de mes études, j'ai fini par arriver là, un peu au fur et à mesure, sans trop savoir que ce genre de métier existe. Mais du coup, c'est une manière d'allier ma passion et aussi de me rendre utile en faisant en sorte que tout enfant qui aime le foot jusqu'à au passionné, je sais pas quel âge, de 13 à 65 ans, qui puisse consommer du contenu sport et football plus précisément de la meilleure qualité possible.
Ok. Et du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de TikTok et de football, on voit TikTok un peu partout dernièrement. Je vais commencer une liste, mais c'est la liste de tous les partenariats, voire du sponsoring que TikTok a pu faire. Je pense que cette liste, elle est même pas. Je pense que tu pourras rajouter. Mais du coup, il y a eu des partenariats avec la LFP, l'Euro féminin en 2021, l'Euro 2020, la CAN 2021, des partenariats avec la CAF, les Portland Timbers en MLS, Wrexham en Angleterre, sponsor du Bayern Munich. Pourquoi TikTok investit autant dans le football et dans le sport plus généralement?
Sur les clubs, je reverrai peut-être un peu la liste. En France, il n'y a absolument rien qui est fait avec les clubs en termes de sponsoring pur. L'important pour nous, c'est on a une communauté sur la plateforme et on a envie qu'elle soit le plus engagée possible avec le football. Aujourd'hui, quand on parle de foot, on est obligé de parler de l'Euro féminin, de l'Euro masculin, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en fait, nous, notre objectif, c'est d'être au rendez-vous de ces grands événements et de faire en sorte que notre communauté, elle puisse les vivre de manière plus intense et partager sa passion sur la plateforme. Donc aujourd'hui, les associations qu'on a fait avec l'UEFA sur l'Euro féminin en Angleterre, qui a été un événement populaire absolument incroyable, et l'Euro masculin un peu partout en Europe, c'est des vraies réussites parce qu'il y a eu beaucoup de contenu sur la plateforme, mais aussi nous, ça nous a permis vraiment de montrer à notre communauté qu'on était engagé sur ça. Après, c'est bien d'être sur ces moments-là, mais c'est aussi important d'être tous les jours avec le football qui est réel, c'est-à-dire les championnats, mais toutes les itérations du football. Aujourd'hui, on travaille à la fois avec les gros temps forts de la saison, comme avec du football féminin de deuxième division. On travaille avec le club du GPSO ici, dans le 92, et on les accompagne sur le contenu, on les conseille, on les intègre à des lives sur le football féminin, on raconte aussi l'histoire de ces joueuses. Donc pour nous, faut être au rendez-vous des deux footballs, celui qui se passe tous les 4 ans l'été et celui qui se passe tous les dimanches sur le terrain près de chez vous.
Mais du coup, comment ça se traduit alors quand tu communiques, tu dis, tu, par exemple, le club du style Les Moulineaux, tu vas les voir et tu les conseilles sur la stratégie sport?
Nous, pour cet exemple précis, notre objectif, c'est on voit un club qui est un des seuls clubs 100% féminin aujourd'hui en France, avec Soyo, je crois. C'est aussi notre volonté de raconter des histoires foot qu'on voit pas forcément partout. Donc déjà, on se dit, OK, il y a une volonté de la part du club de communiquer avec les codes de la plateforme. Donc l'idée, c'est pas qu'on fasse passer le message de manière bête et méchante, c'est ils comprennent les codes de la plateforme, la créativité.
Quels sont-ils? Moi, je ne m'y connais pas du tout.
En gros, la créativité, nous, qu'on attend sur la plateforme, c'est du contenu vidéo. Avec du son soit lié soit original et qui en gros permettent de manière très simple de faire passer des messages. Donc je vais vous donner des exemples de contenu. C'est au bord du terrain de ce club du GPSO ici, les joueuses arrivent à l'entraînement, elles interagissent avec la caméra, elles partagent des choses. Ça va être un petit challenge après un entraînement. Et ça va être aussi être elles ont gagné le week-end dernier contre le FC Nantes 2-1, et c'est une scène de vestiaire qui permet de partager une joie qui était hyper forte parce que c'était un match au coup près, quoi. Donc c'est ça l'école, la créativité, c'est simple, c'est au téléphone, c'est vraiment c'est simple.
Si je te dis que c'est plus sympa, même c'est plus sexy que même le match, je te dis ça, c'est parce que mon fils, c'est un truc de dingue, il y a très peu de temps, je regarde le match de foot, je me purge les 90 minutes. Ok, je me purge, voilà. Et lui, on va dire quoi, même pas une heure ou deux heures après, il revient et il me fait le débrief du match. Il a vu les buts. En fin de compte, il a pris 1 minute 30 du meilleur, le best-of. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est un petit peu ça. En 1 minute 30 ou 1 minute, vous arrivez à faire un résumé des meilleures choses ou des choses les plus sympas et sexy du match. Et ça, c'est fun. C'est juste un retour d'expérience.
L'idée, en fait, c'est pas de se substituer à l'expérience de regarder 90 minutes, parce que le football, ça reste quelque chose qui se passe pendant 90 minutes et c'est pas possible de résumer à 1 minute 30 tous les rapports de force qu'il y a eu pendant le match. En revanche, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est constituer un fil rouge avant-après. Notamment pour les diffuseurs avec lesquels on travaille. Nous, notre objectif, c'est vraiment faire en sorte qu'ils puissent valoriser leurs droits avant et après, et qu'ils puissent à la fois montrer les images du match en soi-même, mais aussi quelle est la petite image dans le couloir qui a peut-être fait basculer le match mentalement, qu'est-ce qui s'est passé après au départ des joueurs, ou voilà. C'est aussi ce genre d'images qui sont tout aussi importantes que le match en lui-même, mais on n'a pas envie de résumer béatement, ok, 1 minute 30, il y a eu 2 buts, voilà match.
C'est... Vous n'êtes pas en concurrence d'être en complément d'eux, c'est ça que vous
exactement
me dire.
Ouais.
Et du coup, si tu devais résumer, même si c'est difficile, j'imagine bien de résumer, la stratégie de TikTok avec le sport et le foot en particulier, est-ce que cette stratégie, par exemple, avec le foot, est différente de la stratégie avec le rugby ou d'autres sports, ou la stratégie sur les sports de TikTok est la même ?
En fait, il y a une stratégie globale sur le sport. On vise à être le terrain de jeu de tous les fans, c'est notre mantra. Donc, de la même manière que la communauté est la plus importante sur la plateforme, nous, on cherche à être au service des fans de sport et de leur offrir la meilleure expérience possible. En gros, on part de ça. Sur le foot, on est sur le sport le plus populaire et fédérateur communément admis. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de mettre à disposition ces outils pour que la personne qui va au stade, la personne qui regarde devant sa télé, qui joue le week-end, qui va au five avec ses potes, bref, toutes les manières de consommer le football, que cette personne puisse être engagée et puisse partager. Après, il y a ce qui se passe sur les gros terrains, mais il y a aussi le foot amateur, par exemple. Nous, quand on dit le terrain de jeu de tous les fans, c'est pour que quelqu'un qui est fan de foot, mais dans le sens pratiquant du terme, il puisse aussi parler de football sur la plateforme. On a des créateurs de contenu qui font le sel de ce qu'est TikTok, c'est-à-dire c'est vraiment des créateurs qui sont suivis, qui ont une certaine audience et qui partagent leur expérience. On a deux mecs qui sont étudiants.
Lucas Tony.
Voilà, exactement.
Comment ils s'appellent?
Lucas Tony.
Lucas Tony.
Ouais, c'est Lucas et Étienne. C'est Lucas et Étienne. C'est deux étudiants qui vont sur des terrains de foot amateur et commenter des matchs de foot amateur, de foot district. Et ils posent une table et ils s'habillent en costard cravate.
Ah, good.
Et ils commentent le match. Mais ils commentent du coup rétrospectivement. Parce qu'ils ne commentent pas en live sur Twitch, mais ils commentent sur TikTok. Ils gardent que les meilleurs moments du match. Et en fait, tu as deux caméras, tu as l'action que tu vois. Et puis, il y a eux qui. La deuxième caméra, elle est sur eux qui commentent.
C'est cool ça.
Ouais. Et eux, ils ont trouvé une énorme audience. Aujourd'hui, ils ont 80 000 followers, mais de manière. C'est super récent. Leur concept, ça fait 3-4 mois. Au point où. Et c'est aussi une histoire un peu TikTok, ce qui leur est arrivé. C'est que.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Faisaient ça, mais sans aucune volonté de particulièrement devenir célèbre ou je sais pas quoi. Eux, c'était vraiment leur passion d'aller au bord d'un terrain de district. Et maintenant, ils ont été repérés par l'AS Monaco et ils ont commenté sur la chaîne de l'AS Monaco le match, le derby azuréen en direct.
Mais c'est via TikTok, ça, qu'ils ont été repérés. T'as pas fait une petite passe décisive, non?
Alors, nous, on les a repérés comme ça. Mais après, le club qui les invite au derby azuréen, il n'y a pas de passe décisive. C'est juste qu'ils ont adoré ce qu'ils font, quoi.
D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça que j'ai lu un listing des comptes TikTok des clubs de Ligue 1? Le PSG à 28 millions, je crois. Et Monaco est devant. Alors, je ne suis pas en nombre exactement, mais Monaco est devant Marseille et Lyon.
Le PSG est à 39 et c'est le club le plus suivi dans le monde.
D'accord.
Et Monaco est en effet à 5 millions, ils les ont dépassés récemment.
Voilà, c'est devant, ils sont, grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont devant l'OM et Lyon.
Ils sont à 5 millions, ils sont devant, en effet, Lyon pour sûr, l'OM, je ne sais pas. En revanche...
Comment ça se fait?
Parce que... À la fois, il y a aussi la construction d'audience internationale. Ouais. Aujourd'hui, TikTok, on n'est pas segmenté uniquement aux followers français.
Okay.
Le PSG, par exemple, a une audience super internationale. Je ne connais pas en détail la stratégie de développement de l'AS Monaco, mais il est clair qu'ils vont, ils vont avoir des followers et séduire d'autres pays.
Est-ce que ces clubs, ils sont devant Marseille? Parce que Marseille, il y a 2,7 millions, ouais. je viens de les vérifier. Et est-ce que c'est des clubs aussi qui font plus appel à vous ou qui écoutent vos bonnes pratiques et qui font appel? Comment si demain je suis le community manager d'un club de Ligue 1, qu'est-ce que je dois suivre comme bonne pratique, comme bon conseil pour percer sur TikTok?
Alors déjà, je pense que vouloir percer sur TikTok, absolument, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie pour avoir justement une audience de long terme et réussir à bien toucher son corps de cible et aller plus loin. En revanche, nous, on a une super relation avec les clubs, globalement, parce que déjà, la plupart des clubs professionnels sont sur la plateforme. En Ligue 1, je crois qu'il y a un seul club qui n'y est pas. En Ligue 2, il doit y en avoir deux ou trois. Je crois que c'est Auxerre qui n'est pas sur la plateforme.
Pourquoi? Tu sais même pas.
Après, on n'est pas en relation tous les jours avec tous les clubs et on peut pas non plus connaître toute leur dynamique interne, etc. Ce qui est sûr, c'est que à la fois les clubs pro et les clubs même amateurs, par exemple le FC Montreuil, ils ont 200 000 abonnés sur la plateforme, ils ont super bien compris comment ça marche, s'appuient à la fois sur le fait que c'est un club qui est très fort en termes de formation de jeunes, ouais, etc., mais qui a aussi des équipes seniors plutôt solides. Le Red Star fait un super travail parce que eux, par exemple, ils ont donné un peu les clés à aux jeunes. Il y a des contenus des U15, des U17 qui fonctionnent super bien, et donc en fait nous, notre travail, c'est vraiment d'être avec les clubs, de comprendre aussi quelle est leur spécificité. On ne travaille pas avec le TFC comme on travaille avec le Paris Saint-Germain. Et après, les bonnes pratiques, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils comprennent les codes de la plateforme, ce que je vous expliquais sur faire de la vidéo, faire du vertical, etc.
Mais du coup, par exemple, tu conseillerais de filmer quoi lors d'un entraînement? Tu conseillerais de filmer quoi avant un match à un club? Parce qu'il y a des trucs où tu conseilles pas de filmer parce que tu te dis les utilisateurs de TikTok seraient pas forcément intéressés par ça. C'est pas forcément un truc précis, mais au moins qu'on ait...
Nous, on n'est pas une agence de contenu, oui, c'est-à-dire qu'on sait pas particulièrement ce qui fonctionne ou non. On connaît les codes un peu de la plateforme. Donc en fait, quand je vais aller voir un club, je vais peut-être discuter avec eux sur vous avez cette force-là qui est votre centre d'entraînement, donc on vous conseille de le mettre en avant. Votre formation est un vrai atout, donc faites des challenges avec vos jeunes. Les gens ont envie de voir ce qui se passe. Vous êtes sur une série de 4 victoires. Ils ont envie de voir ce qui se passe après dans le vestiaire. Il y a plein de piliers de contenu qu'on peut leur conseiller. Après, il y a dans tous les clubs différents des logiques d'accès plus ou moins fluides aux vestiaires, aux pros. Donc voilà, pour nous, l'idée, c'est de leur faire comprendre quel est à peu près le rythme de poste qu'ils peuvent adopter, qu'est-ce qu'ils doivent respecter à peu près comme code. Et après, de toute façon, on est quand même sur quelque chose qui est super engageant, le football. Aujourd'hui, les contenus sur la plateforme fonctionnent très bien. Donc, c'est à qui prendra une décision plus ou moins, enfin une direction différente.
Tu parlais des rythmes de poste. C'est quoi les rythmes de poste?
Ça dépend vraiment d'aujourd'hui, quels sont vos moyens en interne, quoi. Enfin, ça sert à rien d'aller sur je sais pas combien de postes par semaine si vous êtes pas capable de tenir cette durée sur la distance.
Donc c'est pour ça que les télévisions de club là, tu sais, OLTV, enfin j'en cite quelques-unes, mais elles ont, OMTV pardon, ça a fermé. Et je comprends mieux parce que maintenant avec TikTok, un club peut utiliser TikTok pour fédérer et pour engager ses fans.
Disons que c'est très complémentaire à leur stratégie de communication plus large.
Ouais. Ouais, c'est good, je comprends mieux là.
Et du coup, comment... Alors peut-être que tu peux pas en parler ou tu peux pas forcément parler des comportements des utilisateurs TikTok, mais du coup, si tu peux, comment la génération Z, qui utilise beaucoup TikTok, comment tu dirais qu'elle consomme le football par rapport à Edouard Cissé qui va regarder par exemple les 90 minutes? Comment elle le consomme?
Je vais peut-être regarder TikTok.
Déjà, la génération Z, on parle beaucoup de TikTok, plateforme de la génération Z. Aujourd'hui, il y a 67% d'utilisateurs qui ont plus de 25 ans. Donc, il y a eu quand même une évolution de la plateforme, ce qui fait qu'on n'est pas la plateforme uniquement de la génération Z. En revanche, moi, je vais quand même principalement à l'encontre des idées qui disent que la génération Z, elle consommera jamais le football comme c'était auparavant, qu'elle a pas envie de regarder 90 minutes. Je pense qu'au contraire, c'est une génération qui a intégré ces 90 minutes, mais qui veut aller plus loin que ces 90 minutes. Et la force de TikTok, c'est que nous, on encourage les clubs, les fédérations, les médias à aller vers plus d'authenticité et à donner du contenu qui est brut, qui va être filmé au téléphone, proche de l'action. Et notre objectif, c'est vraiment d'encourager tout un chacun à produire ces contenus-là. Et la génération Z, elle est hyper friande de ça, en fait. L'idée, c'est pour elle de, comme je vous disais, voir ce qui s'est passé à l'entraînement pendant la semaine, voir ce qui s'est passé dans le vestiaire, voir aussi ce qui s'est passé, le petit mot en conférence de presse, mais aussi comprendre comment travaille son équipe. Si elle voit, notamment, il y a pas mal de podcasts d'analyse tactique sur TikTok qui sont très consommés, parce que aujourd'hui, cette génération Z, elle s'arrête pas au débat basique de qui est meilleur à son prime par rapport à l'autre, mais elle a envie de savoir en gros, à la fois, d'où vient le 4-4-2 qu'on lui a montré ce week-end, mais aussi voilà, la différence entre deux profils de joueurs, pourquoi le coach il a choisi ce joueur plutôt qu'un autre. Donc,
il y a du divertissement, mais aussi de l'information aussi.
L'idée est d'être, même je dirais, l'éducation aussi au sport et de recul. Avant la Coupe du Monde sur la plateforme, on a diffusé en collaboration avec la FIFA des matchs d'archives de Coupe du Monde. Ça, c'est intéressant parce qu'on revient sur des matchs des 20 dernières années qui n'ont pas nécessairement été vu en direct, et ça permet aussi de comprendre ok, le Portugal était un des gros favoris de la Coupe du Monde, mais comment le Portugal est venu avec cette génération dorée, comment ils ont amené tous ces joueurs 2010, 2014, 2018. Donc
ça, c'est de la bombe là, le côté éducatif. Mais du coup, explique-moi comment tu fais. Vous avez remontré les matchs il y a 20 ans, mais pas le format 90 minutes, c'est quoi, sur une minute, deux minutes, trois minutes?
Non, c'est du live TikTok, donc on a la fonctionnalité live sur la plateforme.
Ah, ok, d'accord.
Qu'on est en train de développer et qui est reprise par beaucoup de nos partenaires. Je vois le Racing Club de Lens qui, avant son match contre le PSG à domicile, avant le Derby du Nord, il y a quelques semaines, a fait un live de plus d'une heure sur TikTok. On a beaucoup de diffuseurs qui font des lives pré-match sur les gros matchs de Ligue des Champions par exemple. Donc déjà il y a ça qui est du live assez basique parce qu'on montre vraiment les coulisses et c'est l'important, c'est TikTok, on veut être la plateforme des coulisses. Mais de l'autre côté il y a aussi la possibilité, et là c'était un peu plus marginal, de diffuser des matchs comme l'a fait la FIFA. Et donc là c'est des lives qui durent l'intégralité du match.
Mais comment tu montres un match, c'est purement technique, hein, mais comment tu montres un match qui est en 16-9e en 9-16e. Du coup, il y a un travail en amont pour en fonction de la réalisation du match, choisir l'endroit où il y a la balle. Comment vous avez fait ?
Il y a deux options. Il y a soit une option de réal, en effet, où le match est diffusé en 9-16e, donc de manière purement verticale et intégrée à l'écran, ou alors il y a juste un bouton pour tourner, pour faire pivoter en horizontal.
C'est vrai, tu peux tourner ton téléphone.
Ouais. Là, t'achètes un smartphone de marque Orion et voilà. Et tu le plies.
C'est vrai, ok. Et du coup, c'était l'intégralité du match qui était montrée ?
Ouais.
Ok.
Ça, c'est bluffant, d'ailleurs. Pour moi, c'était... j'en étais resté à ça, putain, je suis vieux. Une minute. Et tu viens de m'expliquer que non, de plus en plus, ça va s'étendre.
L'évolution est passée à... Déjà, il y a des contenus de 3 et 10 minutes. C'est trois formats différents au moment de la production du contenu. On voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de clubs qui adoptent ça. Il y a en gros des sortes de mini-documentaires sur TikTok. On parlait du Red Star tout à l'heure, mais le Red Star a envoyé, je crois, ses U15 à Londres pour un tournoi. Ils ont été reçus à Crystal Palace. Enfin, c'était une super expérience pour les jeunes. Et le Red Star a décidé de documenter ça sur TikTok avec des contenus de plus d'une minute qui ont aussi bien marché que des contenus de 15-20 secondes. Donc, on voit vraiment qu'il y a un format maintenant pour raconter ces histoires et il y a une audience pour les regarder.
Mais dans ces cas-là, il faut les monter. C'est pas juste un plan séquence de 1 minute 30, quoi.
On peut faire.
Enfin, tu peux, oui, mais.
C'est du vlogging, quoi. Tu prends 5 secondes là, 10 secondes là, c'est faisable. Après, évidemment qu'il y a des partenaires qui vont avoir envie de faire un peu plus de montage, mais il est possible de le faire avec des outils natifs à la plateforme directement pour faire du montage, ouais.
Ok.
Donc, toi, ça fait 3 ans que tu travailles chez TikTok ?
Non, moi, ça fait plus de 6 mois.
D'accord. Et c'est quoi ta journée type ?
Il n'y a pas vraiment de journée type. Il n'y a pas vraiment de journée type.
Tu es en bureau quand même, tu bosses.
Non, on y va.
Non, je suis curieux de ça.
On y va et les journées sont bien remplies, mais il y a plein de choses à faire parce qu'évidemment, là, on parle de foot, mais on parle de plein d'autres sports sur la plateforme. Là, on a été partenaire des Six Nations masculins et on est sponsor, on est partenaire titre, on est le premier partenaire titre du tournoi des Six Nations féminin. On a aussi des collaborations de manière un peu plus ponctuelle. On a travaillé avec l'AS Monaco. Sur un bel événement avec des créateurs de contenu. Donc en fait, la journée type, c'est être à la fois pertinent sur les gros temps forts sportifs, c'est-à-dire avoir des plans pour ça et faire en sorte que la communauté puisse voir des jolis contenus et puisse être vraiment engagée avec ces moments-là. Et il y a aussi sur le long terme que les clubs comprennent comment fonctionne la plateforme et les aider de la meilleure des façons.
Et est-ce qu'il y a des joueurs, des grands joueurs, des bons joueurs, joueurs de Ligue 1, qui viennent vous voir pour dire, voilà, j'aimerais bien avoir... Expliquez-moi comment je pourrais rendre mon compte un peu sexy, qu'est-ce que je pourrais faire, ou est-ce que, tout simplement, tu pourrais les aider dans leur strat TikTok de contenu ?
Bah, oh, après, nous, on les accompagne pas en direct sur il faut que tu fasses un contenu comme ça, ouais, ou ouais, tu fais un contenu comme ça. Nous, c'est sûr qu'on a des sportifs de haut niveau qui sont sur la plateforme et que les gens ont envie de voir. Donc, on fait en sorte qu'ils puissent rejoindre la plateforme.
Et après, ils se débrouillent.
Bah, oui.
Ils sont libres de. D'accord, ok. Je pose des questions bêtes parce que je m'y connais
pas du
tout.
Non, mais.
Et du coup, sur les contenus qui sont faits quand vous êtes partenaire d'un événement, comme le tournoi Destination ou l'Euro, qu'est-ce qui vous intéresse ? Enfin, tu vas encore me dire que c'est les coulisses, mais comment tu mets ça en place ? Comment ça se passe, la mise en place, quand vous avez accès à ces événements-là ? Par exemple, tu fais un partenariat avec l'Euro féminin. Comment ça se passe, en termes purement pratiques, ce partenariat-là ? Qu'est-ce qui est dealé dans ces partenariats-là ? Ça va jusqu'où ?
Bah, nous, on met en place des outils sur la plateforme qui sont des outils qui vont permettre de suivre la compétition de manière plus poussée et avec du contenu de plus en plus qualitatif. On a des hashtags qui permettent de suivre les meilleurs contenus. On est capable aussi d'avoir le calendrier de la compétition en question. Et ça améliore fortement l'expérience utilisateur. Et en fait, sur TikTok, nos utilisateurs vont pouvoir vivre le tournoi Destination avec tous les outils en main. Le calendrier, quand est-ce que joue la France, le compte de l'équipe de France, le compte Destination, le compte du diffuseur. Et donc, en fait, c'est tout cet écosystème qui est valable pour le football aussi. D'ailleurs, si aujourd'hui, imaginons, c'est de la fiction pure, je suis fan de Lorient.
Non, dis la vérité.
Des Girondins de Bordeaux.
Ah.
Mais sauf que mon exemple fonctionne bien avec Lorient. Aujourd'hui, je suis supporter de Lorient. Mon joueur préféré, c'est Stéphane Diarra. Stéphane Diarra est sur TikTok. Mon club préféré, le FC Lorient, est sur la plateforme. L'équipe de France, parce que je suis quand même fan de l'équipe de France, est sur TikTok. Et en plus de ça, les diffuseurs de mon championnat préféré, la Ligue 1, sont sur TikTok, Prime Video et Canal Plus Sport. Donc en fait, ça permet... Aujourd'hui, je vais au Moustoir le week-end, mais en plus de ça, toute la semaine, je peux être dans un écosystème FC Lorient hyper fluide où je vais avoir des contenus qui vont s'enchaîner et qui vont me permettre d'en savoir plus sur mon équipe.
Ouais, c'est bien.
Et du coup, comment tu mesures, par exemple, tu nous disais tout à l'heure que pour l'Euro féminin 2021, ça a été un succès. Comment TikTok mesure que c'est un succès ? Est-ce que c'est purement les chiffres, les audiences, ce que ça a ramené comme interaction, ou ça se mesure autrement ?
Bah, ça se mesure de manière hyper simple et tangible avec les hashtags, à quel point ils sont repris. Vous pouvez vous-même consulter le nombre de vues sur chaque hashtag. Et après, c'est aussi, par exemple, le compte de l'équipe de France, s'ils ont réussi à beaucoup poster, si ça a permis aussi de rencontrer une nouvelle audience et d'avoir éduqué sur l'équipe de France de football féminine était sur l'Euro, comment on a réussi après à raconter, à faire émerger des figures. Ça, c'est hyper important pour nous, c'est d'avoir cette mission de mettre au service de notre communauté plein de contenus qui vont leur permettre d'en savoir plus que simplement s'ils avaient suivi la compétition de manière normale.
Et est-ce que les organisateurs d'événements, qu'est-ce que les organisateurs d'événements, même si je te vois bien me répondre et me dire que c'est pas toi de se mettre à leur place, mais qu'est-ce qu'ils cherchent ou qu'est-ce que tu sens qu'ils cherchent quand ils viennent vous voir, si c'est pas juste d'aller chercher la nouvelle génération, la génération Z ? Qu'est-ce qu'ils cherchent en venant voir TikTok et en créant des partenariats avec vous ?
Bah, c'est un autre moyen de raconter leur compétition et leur temps fort, de toucher des audiences qui vont être hyper diversifiées en termes d'âge, d'origine, etc. Donc nous, on est vraiment au service de ces événements pour faire en sorte qu'ils touchent le plus grand nombre.
Ouais, c'est un nouveau récit. La dernière fois, tu me parlais, Max, de l'âge moyen
des téléspectateurs. Des spectateurs de tennis, c'est 61 ans.
Voilà,
et Tour de France, c'est 58 ans.
Donc, à un moment donné, il faut rajeunir un petit peu l'audience parce que sinon, il va pas y avoir de renouvellement. Donc, grosso modo, ils ont plutôt intérêt, que ce soit la fédération de tennis ou le cyclisme ou la pétanque, de venir un petit peu sur TikTok.
Ça, il faut leur dire.
Non, mais grosso modo, c'est un peu ça, quoi.
Nous, on travaille vraiment avec tout le monde.
C'est se régénérer. Et les jeunes, ils vont où ? Il faut aller chercher les jeunes, donc c'est un peu sur TikTok.
Mais encore une fois, l'idée n'est pas seulement de dire les jeunes, il faut leur donner ce produit-là parce qu'on estime que c'est ce qu'il faut pour eux. L'important, c'est vraiment d'éduquer toutes les audiences à tous les sports. Et nous, on ne va pas faire de sectarisme. La diversité du sport, c'est hyper important pour nous. Donc, je n'ai pas envie, moi, de me concentrer juste sur le gros temps fort du sport majeur toute l'année.
Alternative Football.
Alternative Football. qu'est-ce que tu as pensé du match, du coup, 11 All-Stars, qui est un match qui a eu lieu entre des streamers français et espagnols, pour ceux qui écoutent Alternative Football et qui n'ont pas suivi. Ouais. Est-ce que tu avais suivi ça, toi, Edouard, le
non,
match?
Non, je suis une quiche. Vous m'en aviez parlé, ouais. Mais franchement, j'ai... Je suis trop une quiche, je suis désolé.
Du coup, c'est un streamer Twitch qui s'appelle Amine.
Ouais.
Qui, il y a eu une opposition entre des streamers français et des streamers espagnols. Et du coup, lui a eu l'idée de monter un match. Donc, c'est le match s'est joué dans le stade du stade français. Donc, dont j'ai oublié le nom.
Jean-Bouin,
ouais. Dans le stade Jean-Bouin. Donc, ils ont fait un match à Jean-Bouin avec que des streamers dont aucun n'a été footballeur professionnel. Le match a été en direct sur Twitch, sur la chaîne d'Amine en France et sur la chaîne de je sais plus quel streamer en Espagne. Et en France, il a pété un record. Donc le match a été vu, ça s'est monté jusqu'à au-delà d'un million, je crois.
Ouais, c'est colossal.
Et en fait, même sur les codes, c'est-à-dire que dans la réalisation, ils ont repris une réalisation un peu à la FIFA. C'est-à-dire que la Spider Cam sur les coups francs, là où tu peux pas, sur un match normal, faire descendre la Spider Cam juste derrière le tireur. Là, ils ont mis la Spider Cam derrière le tireur. Après, ils allaient voir le mur. Et après, ils allaient voir le gardien, tu vois. Et en fait, en termes de réalisation, donc, du coup, la génération Z et même ma génération ou d'autres, on avait les codes des jeux vidéo. Ouais. Et donc, beaucoup ont pris ce match en exemple en disant que, regardez un peu ce qui a été fait avec ce match 11 All-Stars en termes de réalisation et de ce que le jeune public veut. Prenez-en de la graine, quoi. Et du coup, ça m'intéresse aussi, même si Twitch et TikTok n'ont rien à voir, mais ça m'intéresse un peu de savoir ce que tu as pensé par rapport à la réalisation et de ce match-là entre les streamers français et espagnols. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites aussi par TikTok ce jour-là autour de ça? Et qu'est-ce qui en a été fait?
C'est un super projet. L'audience l'a prouvé. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas opposer ce qu'eux ont fait et ce qu'est la réalité du foot aujourd'hui. Eux, ils ont aussi eu un peu plus de latitude pour faire ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas de joueurs pros sur le terrain qui ont aussi leurs contraintes de joueurs pros. Nous, très franchement, on accompagne tous ces types de projets. C'est important de comprendre ce que ce genre d'événement propose, comme et c'est important de comprendre ce dont la Ligue de football professionnel a besoin. Nous, on a quand même cet écosystème de créateurs qu'on aime activer et qui est ce que les gens aussi veulent voir sur la plateforme. On a fait un match, par exemple, avec des créateurs de contenu TikTok et l'AS Monaco pendant la Coupe du Monde, qu'on a appelé Football on the Rock, et qui était co-organisé avec le club. L'objectif pour nous, c'était d'avoir une douzaine de créateurs de contenu qui venaient à la Turbie, donc au centre de performance qui vient d'être refait de l'AS Monaco, leur proposer une journée dans la peau d'un joueur de foot pro, mais ça, il n'y a rien de révolutionnaire. En revanche, ce qui était nouveau pour nous, c'était d'organiser un match avec des néo-pros de l'AS Monaco et les créateurs de contenu, mixés en équipe 7 contre 7 et diffusés en direct sur TikTok. Donc en fait, nous, on se situe un peu entre ces deux mondes-là. On a envie d'aider à la fois les clubs à aller chercher des nouveaux types de projets qui incluent des créateurs de contenu, et on veut aussi amener toute une audience vers les codes conventionnels du football, et ça permet d'avoir des événements qui sont super intéressants, hybrides. Le match est diffusé en direct sur TikTok, et pour nous, ça a vraiment du sens de travailler sur ce genre d'événement.
Et qu'est-ce qui en est sorti de ce match-là, ou quels ont été les moments marquants, les événements phares, la vidéo qui a le plus marqué, c'est quoi
Déjà, ce qui est cool, c'est que les créateurs de contenu ont très très bien joué. Déjà, et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que on n'allait pas avoir des créateurs de contenu dans ce match qui n'avaient pas une pertinence football. Déjà, c'est hyper important parce que je pense qu'il faut quand même respecter le jeu à la fin, et donc les créateurs de contenu ont fait un bon match. Ce qui est ressorti aussi, c'est que les clubs parfois se rendent pas compte de la beauté de leurs installations, et en termes de contenu, on parlait de coulisses tout à l'heure, mais ouvrir les coulisses à des créateurs de contenu qui partagent leur communauté comme ça, c'est à la fois très engageant et c'est très beau aussi, je trouve.
Ouais, c'est ça.
Parce que quand le monde pro s'ouvre comme ça, on est sur une vraie rencontre d'univers, et sur ça, on est hyper content que ça se soit fait. Et après, ça permet, nous aussi, on avait imaginé quelques petits trucs sur la Real. On avait mis une GoPro sur l'arbitre qui permettait, on parle beaucoup de sonorisation en ce moment. Nous, il n'y avait pas de sonorisation, il y avait une GoPro, mais ça permet aussi de voir les choses différemment. Et en plus de ça, la Turbie était un cadre pas trop horrible pour faire un match de football. Ouais.
Mais je vois que ça bosse souvent avec l'AS Monaco, du coup.
C'est le même projet que tout à l'heure.
Ah ouais, d'accord.
Et du coup, est-ce que les clubs, est-ce que tu dirais quand même que, parce qu'en fait, les coulisses, c'est un peu le nerf de la guerre pour les ayants droit d'avoir accès à ces coulisses. Et les clubs sont plutôt réticents à montrer ces coulisses. Donc, est-ce que tu sens que depuis l'arrivée de TikTok, la manière dont les coulisses sont, vous médiatisez ces coulisses, a changé ou les codes des clubs ?
J'ai la réponse. Ah,
bah, vas-y.
Grosso modo, là, ce qu'il vient de raconter sur l'AS Monaco, l'AS Monaco a compris, ou le club professionnel peut comprendre, qu'il faut s'ouvrir. Mais ils n'ouvrent pas les pros, ils ouvrent les jeunes, centres de formation. Donc c'est un peu, pour l'instant, c'est tiède. Le jour où ils ouvriront les pros, je pense que ça pourrait être encore mieux, quoi.
Après, il y a déjà les contraintes sportives qui me semblent être les plus importantes quand même. Et nous, on n'est pas là pour faire en sorte qu'un club oublie le sportif. L'objectif, c'est d'accompagner le sportif. Et le contenu et la qualité du contenu n'est jamais aussi belle que quand le sportif a ouvert et dans les bonnes conditions, etc. Donc nous, on ne veut pas que ce soit ouvert à tout prix. On veut que les clubs le fassent avec leurs propres contraintes, etc. Donc voilà. Et après, de toute façon, c'est des décisions qui sont internes au club. Nous, on n'a pas d'ambition d'interférer là-dedans.
Pour répondre encore plus à ta question, Prime ou Canal, qui sont les diffuseurs de la Ligue, on a beaucoup de mal à rentrer dans les vestiaires, ne serait-ce que faire parfois une interview, et donc c'est un petit peu comme ça. Et moi, quand j'étais joueur, c'est vrai qu'on avait tendance à fermer les vestiaires, à se protéger, parce que c'était notre sauce, les affaires en famille, alors que progressivement, moi je comprends qu'il faut s'ouvrir un peu, donner un peu à l'extérieur, parce que c'est important, en fin de compte, on veut un peu de l'inside, et tu peux très bien ouvrir ton vestiaire ou ouvrir ton club, et dire aux gens, ouais mais ça c'est private, ça vous pouvez.
Voilà, mais je pense que ça vient aussi avec l'outil, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que c'est des scènes qu'on voyait pas forcément, mais va ramener un caméraman avec sa caméra sur l'épaule, c'est sûr que en fait c'est passé par la technologie. En fait, c'est le fait de pouvoir filmer aussi bien avec un smartphone maintenant que dans les années 90 avec une énorme caméra, et qui fait que t'oublies un peu la présence du téléphone, et que ce téléphone-là, chacun peut l'avoir. Donc finalement, ton créateur de contenu, il arrive dans le vestiaire et il va filmer à d'autres endroits, à même pas forcément au même niveau. Il va même pas se mettre au niveau de l'épaule, il va se mettre au niveau du, je sais pas, de son torse ou un peu de côté, ou à faire des mouvements beaucoup plus faciles. Donc c'est ça qui permet aussi d'avoir une diversité d'images qui est bien plus différente et bien plus simple à amener dans un vestiaire, finalement.
Oui, il y a ça, et puis plus ça va, plus je me rends compte que les gens, ils veulent une expérience, et l'expérience, elle passe pas nécessairement par... Nous, moi je te parle du côté professionnel, toujours, qu'est-ce que le joueur professionnel fait ? Le vestiaire des professionnels, le vestiaire des pros, mais un club c'est pas que des pros. Et donc l'expérience, tu veux de l'inside de tout, tu vois, vous avez fait les centres de formation, ou les jeunes de formation, ou les jeunes pros, ben, c'est le groupe élite, je pense, ils ont 18-19 ans. Mais il y a l'école de foot aussi, tu vois, il y a plein de... un club de foot, c'est grand, et donc le contenu, le côté immersif, ben, tu peux l'avoir... à tous les niveaux. Donc,
On a vu YouTube qui, ou en tout cas certains ayants droit, qui ont pu mettre du contenu gratuitement sur YouTube ou sur Twitch. On pense à DAZN avec la Ligue des Champions féminines sur YouTube. Sur Twitch, on a vu RMC qui a mis des matchs d'Europa League. Est-ce que TikTok pourrait se laisser tenter par la diffusion ou l'achat d'une certaine forme de droit, ou pas du tout ?
Nous, on n'a aucune vocation, ambition ni velléité de le faire. Nous, au contraire, on travaille de très très près avec les diffuseurs pour faire en sorte qu'ils puissent valoriser leurs droits. Donc, ce qu'ils n'ont par exemple pas pu montrer à l'antenne, qu'ils puissent le mettre sur TikTok, que derrière, même des choses qu'ils ont mis à l'antenne et qu'ils ont envie de remettre en valeur, qu'ils puissent le faire. Les highlights, on parlait de ça... que ça puisse aussi être sur la plateforme, et on a beaucoup de partenaires qui jouent le jeu. Donc l'objectif, c'est plutôt d'être un très bon partenaire et d'être au service de ces diffuseurs plutôt que nous d'aller diffuser. C'est pas du tout notre ambition.
Mais du coup, vous pourriez, à l'instar de YouTube ou à l'instar de Twitch, s'il y a des projets qui se présentent et que des ayants droit veulent diffuser des matchs en live sur TikTok, ça pourrait se faire et ça pourrait être intéressant.
Avec la bonne solution, je pense qu'il faut discuter avec eux. Et voilà, nous, c'est vraiment notre priorité, c'est les coulisses, et c'est d'aller plus loin et d'avoir ce fil rouge. Si c'est assuré, après on verra ce qu'on peut faire avec ces partenaires-là. Mais en l'état, on n'a pas d'expérience passée qui nous permette là en France de vous dire que c'est un objectif.
C'est quoi les prochaines fonctionnalités dont TikTok va se doter ?
Là, il y a eu des gros ajouts sur la plateforme avec justement les formats 3 minutes, 10 minutes qui sont des grosses fonctionnalités pour la plateforme et qui constituent un vrai changement positif qui permet de raconter des histoires beaucoup plus longues. Le live Et aussi une fonctionnalité que nous on développe beaucoup, qui commence à être très adoptée par nos partenaires, qui sont hyper friands en termes de sur les clubs de foot, on en a de plus en plus qui font l'expérience et qui justement la rendent régulière. La Ligue de football professionnel fait pas mal de live aussi. Donc nous, ces deux éléments-là. Et après, il y a aussi des évolutions sur ce qui fait le sel de TikTok, la communauté, l'écosystème. On a lancé un programme pour la création qui est en version test en ce moment en France et qui permet de rétribuer nos créateurs par rapport au contenu de plus d'une minute qu'ils créent et qui est hyper important parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui animent la plateforme et c'est très important de leur rendre ça.
Et quels sont les codes des lives sur TikTok ? Est-ce que c'est comme sur Instagram ou est-ce qu'ils reprennent les codes d'un live télé avec différents plans, différentes caméras, où il faut juste avoir juste son téléphone et c'est un plan fixe ou c'est un plan mouvant, mais quels sont les codes ?
Il suffit d'un téléphone avec la possibilité de changer sur la caméra avant-arrière. Ça peut être en mouvement comme ça peut être statique. On a des lives, par exemple, des lives pré-match pour le tournoi Destination qui ont été faits téléphone sur un trépied et des invités qui défilent, donc ce qui donne quand même une sensation de dynamisme. On a aussi des lives de coulisses où justement c'est le club, le Racing Club de Lens, ils font ça, ils passent dans le vestiaire, ils montent les maillots avant que les joueurs rentrent dans le vestiaire, après ils sont au bord terrain, les gens s'installent, donc en fait il y a plein de manières de faire un live TikTok, c'est simple puisque il suffit d'avoir un téléphone et une bonne connexion 4G ou internet, donc ça permet aussi de rapprocher les gens d'événements auxquels eux ne peuvent pas assister et c'est, on parlait d'éducation, on parlait de coulisses tout à l'heure, mais c'est aussi cette accessibilité au sport qui est hyper importante. Aujourd'hui le football, vous avez énormément de demandes pour aller voir certains matchs et c'est vraiment vraiment qualitatif pour TikTok qu'il y ait des lives en pré-match qui permettent de rapprocher tout le monde. On l'a fait avec le Ballon d'Or par exemple, on a collaboré avec l'équipe / France Football sur le Ballon d'Or de l'année dernière et en fait en 3-4 jours avant, on a fait une rencontre entre Didier Drogba qui présentait la cérémonie et des créateurs de contenu TikTok. Et le jour de la cérémonie, on avait un créateur TikTok qui s'appelle Just Riyad qui était sur le tapis rouge, qui avait son petit stand et le compte de l'équipe en live. Et c'était hyper complémentaire à l'antenne de la chaîne L'Équipe. Et on a diffusé le tapis rouge avec Just Riyad qui a arrêté. On a même eu Ronaldo au micro. Donc c'est des choses qui sont super qualitatives.
Lequel Ronaldo ? CR7 ou le gros ?
Le vrai.
The Only One. Putain, c'est top. Alors, il était pas sur le plateau de l'équipe. C'est dommage.
Il était pas sur le plateau de l'équipe ?
Non, il est juste passé.
Il est passé sur le TikTok de l'équipe.
Était sur le TikTok de l'équipe.
Ok. Est-ce qu'on peut aujourd'hui... j'imagine qu'on va... Tu vas pas forcément pouvoir nous donner les chiffres, mais est-ce qu'on peut gagner en tant que créateur TikTok de contenu autant qu'un footballeur ?
C'est deux univers... complètement différent.
De la monétisation,
monétisation.
D'ailleurs, c'est comment ça fonctionne la monétisation, c'est en fonction du nombre de vues, c'est quoi ?
En fait,
est-ce qu'ils gagnent de l'argent déjà ?
Déjà, c'est deux univers, enfin, aux dimensions complètement différentes en termes de rémunération. C'est le programme pour la création que j'expliquais juste auparavant. Il y a une rémunération pour les créateurs qui font du contenu de plus d'une minute, donc qui est à forte valeur ajoutée. Et pour nous, c'est hyper important de rétribuer ces créateurs qui font la force de la plateforme et qui apportent des choses hyper intéressantes.
Sans dire de chiffres, mais c'est quoi ? C'est en fonction du nombre de... Je te pose des questions bêtes, mais c'est en fonction du nombre de followers personnes qui ont vu la vidéo, c'est ça ?
C'est le nombre de vues, c'est le nombre de vues sur les contenus depuis une minute.
Okay. Donc c'est par vidéo. Non pas par abonnement, par nombre d'abonnés, c'est vraiment à la vidéo. Quoi.
Ouais.
Okay. Donc je peux créer mon compte TikTok ce soir, faire une vidéo de ouf.
Une vidéo sur ce podcast,
ça peut être viral. Non, mais c'est assez intéressant de comprendre tout ça et d'avoir des éclaircissements.
Et on parlait de la stratégie au début, et du coup, quels sont les projets dans la stratégie 2023, 2024, 2025 ou à horizon 2030 de TikTok ? Vers quoi vous voulez vous tourner ? Ou est-ce qu'il y a plutôt, on parlait du foot amateur, est-ce qu'il y a un virage plus avec les pratiquants foot amateur ? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez encore plus être présent sur les événements ? Vous êtes un peu partout déjà, mais est-ce qu'il y a une orientation qui se dessine pour les années futures ?
L'orientation, déjà, c'est que tous les acteurs de ce qui est le foot aujourd'hui en France comprennent la plateforme, utilisent bien les codes et, en gros, aient rencontré leur audience sur TikTok. Déjà, c'est que tous les clubs aient consolidé un peu leur audience, sachent réellement comment utiliser TikTok de la meilleure des façons, qu'ils fassent des lives avant leur match, que s'ils ont envie de diffuser en direct leur conférence de presse pendant la semaine, qu'ils le fassent. Voilà, c'est qu'en fait, tout cet écosystème football tel que nous, on le connaît, il soit vraiment présent sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment la priorité. Et après, on verra comment le foot aussi évolue et ce dont les partenaires ont besoin de nous, parce qu'à la fin, on répond aussi à leurs besoins et on est aussi au service de ce qu'eux vont apporter à la communauté.
Et par rapport aux pratiquants ou aux footballeurs amateurs, quelle est la stratégie par rapport à ça? Parce que là, on parlait plutôt du fait d'avoir, ce serait bien qu'il y ait la JOCR, que Kylian Mbappé vienne sur la plateforme. Donc ça, c'est pour le foot pro, mais pour le foot amateur ou pour les pratiquants foot amateur, quelle serait plutôt la stratégie? Moi, l'idée, en tout cas l'objectif, quoi.
Moi, je joue au foot à 7 avec des amis en FSGT en la semaine. Je dis pas qu'il faudrait que chaque équipe amatrice joue le jeu de TikTok et crée son compte, mais je pense qu'il y a plein d'histoires aussi locales à raconter. Le travail du FC Montreuil est excellent, mais il y a plein d'autres petits clubs et notamment des équipes féminines beaucoup qui créent leur compte, qui font des vues, qui sont à la fois liées à la vie de leur vestiaire et à ce qu'elles partagent en dehors du terrain, mais aussi
tout
à regarde le coup franc incroyable que mon pote a marqué cette semaine. Donc il y a aussi un peu de ça. Le foot, il est autant sur les terrains vagues du fin fond de je sais pas où comme au Parc des Princes, quoi.
Ouais, mais c'est ce que je comprends en fin de compte, vous avez tous une histoire à raconter, racontez-la.
Voilà, exactement.
C'est ça le gimmick?
Non, mais c'est...
ça pourrait être.
Je vais le noter.
Et toi qui as pas mal de conversations du coup avec la plupart des acteurs ou des décideurs du monde du foot ou du sport, comment tu vois le futur de l'expérience footballistique, les nouveautés à venir, qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui pourrait t'amener à... En dehors de TikTok, hein, mais ça peut être ton point de vue plutôt personnel là-dessus.
Nous, on n'est pas au board de la FIFA, moi non plus.
Pas encore.
Nous, l'objectif, c'est que n'importe quelle évolution du jeu qu'il y aura, il faut qu'on soit au rendez-vous et qu'on permette de la vivre. Par exemple, on parle de la Coupe du Monde à 48. L'objectif, ce sera que tous ces pays en plus qui participeront à la Coupe du Monde puissent la vivre, ces 16 pays en plus, puissent la vivre sur TikTok, que leur fédération puisse être présente, que leurs joueurs préférés puissent communiquer pendant le tournoi. C'est comme ça qu'on accompagnera les évolutions. C'est plus en étant en soutien que nous, en essayant de changer forcément la structure du jeu.
Pas forcément la structure du jeu, mais ce qu'on montre ou ce que les médias traditionnels, même si vous n'êtes pas forcément en concurrence, mais ce que les médias traditionnels ne peuvent pas montrer, vous, par la facilité avec un téléphone portable, sur quoi ça pourrait être amené? Parce que là, on parle des coulisses, mais ça pourrait être très bien d'autres zones de jeu, d'autres endroits inaccessibles ou d'autres à d'autres moments, finalement.
Moi, je me rends compte qu'ils ne savent pas, en fin de compte. Ils s'adaptent. Comme il l'a dit, vous êtes en soutien. Moi, ce que je comprends, c'est ça, parce qu'il y a un côté... Avant de préparer le podcast, j'avais vraiment l'impression que vous étiez le méchant ogre qui va tout révolutionner, et vous vous adaptez quelque part. Donc même la stratégie, votre stratégie, c'est votre stratégie, on n'en a pas de stratégie. On est juste là pour mettre à disposition, améliorer l'expérience de chacun, permettre, donner des outils pour que chacun puisse raconter son histoire le mieux possible. Et puis dans 2 ans, peut-être qu'on aura d'autres idées, mais on n'avance pas avec une stratégie bien définie. Elle est très adaptative.
Et on se nourrit, en fait. C'est pas qu'on s'adapte, c'est qu'on se nourrit beaucoup des clubs, des fédérations, des partenaires avec lesquels on travaille. Je reviens dessus, mais l'événement à Monaco, c'est un événement qui est co-construit, sur lequel nous, on se nourrit aussi de l'expérience d'un club qui sait ce qu'ils peuvent faire avec leurs outils, et nous, on apporte ce qui fait notre force. On l'a fait aussi dans le basket, ce genre d'expérience à l'Accor Arena avec le Paris Basketball. C'était différent comme expérience, mais on s'est aussi nourri de l'expérience d'un club de basket qui est en plein développement. Donc en fait, sur chaque sport, je pense qu'il va y avoir une histoire à raconter. Et sur le foot, qui est un environnement super mature et super puissant, et nous voilà, on va se nourrir de ce qu'on donne et accompagner ces clubs-là et ces fédérations-là vers une audience la plus fidèle possible.
Et il n'y a pas une volonté, comme il y a pu en avoir en Allemagne, avec le fait que TikTok soit partenaire du Bayern Munich, d'être en France partenaire de certains clubs ?
Je crois pas du tout qu'on soit sponsor du Bayern. Ils sont sur la plateforme, comme beaucoup de clubs. Mais nous, on n'a pas de vocation à être sponsor d'un club. En revanche, si n'importe quel club qui veut discuter de comment il peut optimiser sa présence sur la plateforme,
Partenariat un peu plus poussé avec le Bayern qu'un sponsoring. Ce serait plutôt, j'ai mal lu. Mais du coup, ce serait plutôt un partenariat.
Je ne le savais même pas, en fait.
Ok. Bah, parce que j'avais lu ça, c'est le fait que le Bayern était en partenariat avec TikTok. Ok. Très bien.
Non, c'est tout simplement peut-être le Bayern. Mais c'est peut-être même les journalistes, ils pensent qu'à chaque fois qu'il y a TikTok, il y a un partenariat, alors que non, on se sert de TikTok. Enfin, c'est un outil. TikTok est un outil, c'est ça. C'est quoi la moyenne d'âge à TikTok pour bosser à TikTok ? Tu me parais bien jeune.
Moi, j'ai 27 ans. Je sais pas si dans quelle moyenne je suis.
Non, tu peux pas. Non, je veux pas te couler, mais grosso modo, vous êtes jeunes. Non.
Non, il y a de tout. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans une moyenne particulière.
Ok, good. Merci de ces éclaircissements. J'en sais beaucoup plus maintenant.
J'espère que c'était intéressant.
Tu pourras en parler maintenant à ton fils et à ta fille.
Ah ouais, exactement.
Tu pourras en parler à ton fils et à ta fille.
Exactement, et puis même à d'autres personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de personnes qui fabulent un peu, et j'espère que les gens écouteront et feront une bonne analyse, et puis après ils feront leur propre analyse, et puis voilà, j'ai envie de dire.
Bah merci Emile.
Merci pour l'invitation.
Pas de souci.
Merci Emile, merci la voix.
Merci
la conscience.
Je vais retourner derrière ma vitre et on recueillera Mathieu pour le prochain épisode.
Ciao à tous.
À toutes.
Merci. Alternative Football. Alternative
Football. Alternative Football. Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.